Le siècle des Lumières, qui nous est enseigné à l'école avec tant de fierté par les profs, fut la consécration de la raison humaine, de la science et de l'éducation. C'était, croyait-on, les meilleurs moyens de construire une société stable et moderne pour des hommes libres. Mais c'est aussi à cette époque que les penseurs devinrent ouvertement hostiles à Dieu et à la tradition. En fin de compte, le siècle des Lumières était plein de ténèbres, parce qu'entièrement humaniste dans son orientation. Par leurs écrits et leur promotion d'idées séculières, les philosophes ont réussi à miner et même à détruire deux concepts fondamentaux des textes sacrés, leur vérité et leur infaillibilité. Ces philosophies athées ont pavé la voie au libéralisme théologique, à l'existentialisme et au relativisme. Nos contemporains, qui se croient libres comme l'air, sont en réalité imbibés comme des éponges de ces courants de pensée. Ils les respirent et elles leur sortent par la peau. Ce sont des moutons, mais leur berger, c'est le diable. Heureusement, le mouvement de la réforme a fait front à ces mensonges. Les réformateurs croyaient que l'Écriture était la parole écrite de Dieu et donc digne de confiance. Il considérait ces affirmations comme l'autorité finale, car c'est en elles qu'on pouvait arriver à une vraie connaissance de la vérité et de la réalité. Pour eux, ce que les textes sacrés enseignaient faisait loi. Les réformateurs ont fondé leur compréhension des Écritures sur une portion des écrits de Pierre, où l'apôtre déclare que les croyants ont la révélation exacte de la vérité de Dieu. Dans l'un des psaumes, l'auteur dit que la loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elle donne la sagesse. Je continue à lire dans le premier chapitre de la seconde épître de Pierre. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux, car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque la gloire immense lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Versets 16 à 18. Pierre est absolument convaincu de la vérité qu'il enseigne, car il l'a vue et il l'a entendue. Il utilise la première personne du pluriel parce qu'il défend l'autorité des apôtres et parle au nom de tous les auteurs du Nouveau Testament. En effet, tous ont reçu une révélation surnaturelle qui atteste que ce qui leur a été dit est authentique et qu'ils enseignent la vérité. Par ces affirmations, Pierre veut réfuter ces critiques qu'il accuse de répandre des mensonges qu'il aurait échafaudés dans le but de gagner des adeptes crédules et de faire du fric sur leur dos. Il faut dire qu'à l'époque, il n'était pas rare de rencontrer des faux prophètes qui passaient leur temps à rechercher le pouvoir et le prestige pour de l'argent et des faveurs sexuelles. Les textes sacrés ne sont pas des contes ou des fables qui auraient surgi de l'imagination de quelques illuminés, mais ce sont des récits qui sont basés sur des faits historiques. Pierre et les autres apôtres ne s'appuyaient pas sur des histoires habilement inventées, une expression qui désigne ce qui est trompeur et louche. Le mot grec pour « histoire » a donné « mythe » en français et il a toujours une connotation négative dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul utilise aussi ce mot pour décrire les contrefaçons des faux prophètes. Quand Pierre dit « Nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur », ce verbe est fréquemment employé dans le Nouveau Testament pour parler d'une nouvelle révélation. Ici, il s'agit du second avènement de Jésus quand il reviendra pour régner sur terre. À cette époque, le mot pour « venue » ou « avènement » servait à décrire l'arrivée d'un très haut dignitaire comme un roi ou un empereur. Par rapport à Jésus, il désigne toujours sa seconde venue. Dans sa première épître, Pierre a déjà mentionné cet événement glorieux. Ici, il en parle pour rappeler qu'avec deux autres apôtres, ils en ont eu un avant-goût quand ils ont vu la majesté du Seigneur. Littéralement, Pierre dit qu'ils ont été témoins oculaires. À l'origine, ce mot voulait simplement dire « spectateur ». Puis sa signification a évolué et on l'a utilisé dans les religions à mystère pour décrire un initié, quelqu'un qui pouvait s'identifier à son Dieu préféré et même devenir comme lui. Pierre écrit qu'ils ont vu la grandeur du Seigneur. Le mot ainsi traduit veut aussi dire majesté, splendeur, magnificence. Jésus avait annoncé que certains parmi ses disciples verraient une manifestation de la grandeur de Dieu. Il leur a dit « Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. » Il parlait de la transfiguration. Je lis ce passage grandiose. Six jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pendant qu'ils parlaient ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » Fin de citation. Élie et Moïse représentent la loi et les prophètes ainsi que ceux qui, sous l'ancienne alliance, avaient foi en l'Éternel. Leur entretien avec Jésus concernait probablement sa mort, pour les péchés de tous les croyants de tous les temps. En font partie ceux de l'Ancien Testament, et donc Élie et Moïse, qui, comme tous les êtres humains, ont besoin d'un sauveur. Quant aux trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ils étaient les prémices de ce qui allait devenir l'Église de Jésus-Christ, mais qui, au moment de la transfiguration, n'existait pas encore. Dès qu'ils sont descendus de la montagne, leur retour sur terre fut brutal. Ils ont mis les pieds dans un panier à crabes à cause de l'incompétence des disciples. Je lis le passage. « Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. » Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. » Cette situation dramatique montre la puissance de Satan et de ses hordes diaboliques. C'est bien lui qui mène le bal et toutes les danses en attendant que Dieu tire enfin le rideau et mette un point final à l'histoire humaine telle que nous la connaissons en établissant le millénium. La transfiguration avait pour but de révéler aux trois apôtres la majesté de Jésus et de leur donner un avant-goût de ce que serait le royaume lorsque lui, Jésus, sera assis sur le trône. Cette démonstration de gloire les a profondément marqués pour le reste de leur vie. D'ailleurs, dans ses prédications, Pierre mentionne souvent la seconde venue du Seigneur. Quand dans cet épître, il se remémore cet événement extraordinaire, il dit « Dieu le Père a donné à Jésus honneur et gloire lorsque la gloire immense lui a fait entendre sa voix. » Pierre appelle Dieu la gloire immense, ce qui est un nom tout à fait inhabituel. Il semble aussi que Pierre ait été davantage impressionné par ce qu'il a entendu que par ce qu'il a vu, car il précise « Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes. » Pierre rapporte que Jésus a reçu du Père honneur, c'est-à-dire le plus grand respect et gloire, ce qui correspond à son éclat divin. Et quand le Père dit « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie », il affirme que Jésus est de la même nature et de la même essence que lui. En une seule et courte phrase, Dieu déclare être dans une relation d'amour d'ordre divin avec son Fils. Il ajoute également qu'il est pleinement en accord avec tout ce que Jésus dit et fait. Il n'existe donc pas de raison valable pour que les lecteurs de Pierre d'alors ou d'aujourd'hui nient le futur retour glorieux de Jésus. Il n'y avait aucun hérétique présent sur la montagne de la Transfiguration, mais Pierre a été le témoin oculaire de la majesté de la seconde venue du Christ. Jacques, Jean et lui-même ont vu Moïse et Élie lui parler, et par-dessus tout, les trois hommes ont entendu Dieu honorer son Fils. Quelqu'un dira « Oh moi, je ne crois que ce que je vois ». C'est effectivement un choix, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je continue notre texte. De plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement, et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Verset 19. Avec Jacques et Jean, Pierre a vu la parole de Dieu personnifiée, glorifiée devant ses yeux et a entendu la voix du Père approuver les actions de son Fils et il a vu ce que serait le royaume. Mais cette expérience extraordinaire fut unique, car Dieu communique habituellement avec les hommes par sa parole écrite. Que ce soit la Transfiguration ou la parole des prophètes, elles annoncent le même événement à venir, l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Dans notre société, l'expérience individuelle tient beaucoup de place dans la vie des individus et même de certains croyants qui sont épris de sensations fortes et cherchent à découvrir la volonté de Dieu au moyen de signes. Les païens croyaient pouvoir lire l'avenir dans les entrailles d'une bête fraîchement abattue ou dans du marc de café ou par d'autres moyens occultes. Moi, je n'ai jamais été le témoin d'un miracle fantastique. Mais le Dieu du ciel désire que je place ma confiance dans sa parole sur laquelle je peux m'appuyer et à laquelle je dois prêter attention. Aussi extraordinaire qu'ait pu être la Transfiguration, les Écritures sont plus fiables et plus certaines. Tout au long de l'histoire de l'humanité, chaque fois que Dieu s'est révélé, il a communiqué par sa parole inspirée qui était source de la vérité et qui n'avait pas besoin d'une confirmation quelconque. Quand les auteurs du Nouveau Testament ont écrit que Jésus reviendrait pour établir son royaume où la paix et la justice habiteront, ils n'ont fait que confirmer la parole des prophètes de l'Ancien Testament et du Seigneur lui-même. De plus, c'est dans les Écritures qu'ils puisaient leur assurance et les arguments pour réfuter les contradicteurs. Quand Pierre dit « Nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer », il parle à la première personne du pluriel parce qu'il s'exprime au nom de tous les croyants. L'expression « la parole des prophètes » dépasse le cadre de la prophétie proprement dite pour englober la totalité de l'Ancien Testament. Jésus a dit aux Juifs « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. » Tout l'Ancien Testament, et pas seulement les écrits rédigés par des hommes portant le titre de prophète, témoignent de Jésus. Pierre exhorte ses lecteurs à bien connaître les Écritures afin de discerner les erreurs des imposteurs religieux. Et pour bien souligner cette nécessité impérieuse, il utilise une métaphore. il compare la parole de Dieu à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette image rappelle un passage des psaumes où il est dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin ». Pierre écrit que cette lampe brille dans un lieu obscur. Le mot obscur veut dire desséché, sale, trouble. Le lieu obscur est donc un endroit plein de ténèbres où les gens sont incapables de voir la vérité jusqu'à ce que la lampe de la révélation divine se mette à briller. Le calendrier de l'histoire de l'humanité progresse vers le jour que Dieu a destiné à l'événement glorieux du retour du Christ dans toute sa splendeur et dans toute sa majesté pour établir son royaume. Alors, il mettra fin à la nuit du mal, du péché et des ténèbres. La parole des prophètes est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Le mot pour étoile du matin signifie littéralement porteur de lumière et n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. C'était le nom de la planète Vénus dont l'apparition le matin précède celle du Soleil. Ici, Vénus désigne le Christ dont la venue inaugurera son règne de 1000 ans sur terre. Dans les Écritures, Jésus est plusieurs fois associé à une étoile. À la fin du livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean écrit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. » Pendant la nuit, la lampe remplace le soleil, mais elle est éclipsée par la lumière du jour. Pareillement, nous attendons la venue du Christ, l'étoile du matin, qui accomplira toutes les prophéties faites à son sujet. La révélation éternelle et parfaite du Fils de Dieu remplacera la révélation temporaire des Écritures. Par sa présence, il remplira le cœur de ses fidèles qui reflèteront alors la vérité et la justice parfaite de Jésus lui-même. Mais jusqu'à ce qu'il vienne, les croyants doivent laisser sa parole illuminer leur cœur. Je continue le texte. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. Verset 20. Les écrits prophétiques n'ont pas pour source leurs auteurs, mais Dieu. L'apôtre Paul aussi a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Littéralement, Pierre dit qu'aucune prophétie, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, tire son origine de la pensée ou de l'imagination humaine. Les fausses prophéties, par contre, naissent de l'homme imbu de lui-même qui est soit un exalté, soit un imposteur, ou les deux. N'ayant pas l'imprimatur divin, ces dires sont au mieux sans valeur et au pire un poison mortel. Contrairement aux prophètes de mensonges qui inventent des histoires ou qui parlent inspirés par un démon, les auteurs sacrés n'inventent rien. Ce sont des porte-paroles qui s'expriment pour Dieu et non pas d'eux-mêmes et pour leur propre bénéfice. D'inspiration divine, leurs dires et leurs écrits sont incontestables et véridiques. Je finis le premier chapitre. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Verset 21. Lorsque les auteurs de l'Ancien ou du Nouveau Testament s'expriment, ils sont portés par l'Esprit de Dieu. Le mot pour « pousser » signifie « emporter ». Luc l'utilise deux fois pour décrire la manière dont le vent pousse un voilier sur l'eau. C'est un peu comme si ceux qui ont rédigé les Écritures avaient hissé leur voile spirituelle, permettant ainsi à l'Esprit-Saint de les gonfler par le souffle puissant de la révélation divine. Les 40 et quelques auteurs des 66 livres que contiennent les textes sacrés peuvent dire, comme Jérémie, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». L'apôtre Paul écrit que seul le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Pourtant, les auteurs sacrés ont également exprimé leurs sentiments. D'une manière mystérieuse, ils étaient mêlés au processus de révélation. Ils ne prenaient pas simplement des notes qui leur étaient dictées et ils ne faisaient pas de l'écriture automatique. Bien que les Écritures ont été composées par des êtres humains, elles correspondent exactement à ce que Dieu voulait dire. C'est une œuvre divine et humaine, un peu comme Jésus était à la fois Dieu et homme. Contrairement à ce que beaucoup de personnes religieuses pensent, Dieu ne nous a laissé aucune médaille, suaire ou objet de dévotion quelconque. Il n'existe pas non plus d'endroit où il se révélerait plus qu'à un autre. Il n'est pas nécessaire de faire un pèlerinage pour découvrir Dieu. En ce monde, nous n'avons rien qui vienne de lui, sinon sa parole écrite. Pour faire face aux imposteurs religieux, les croyants doivent apprendre à connaître l'ensemble des Écritures et pas seulement quelques passages préférés ici et là. Ils doivent s'en nourrir parce qu'elle est porteuse de vie. Devant le gouverneur romain Félix, l'apôtre Paul a dit « Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes », c'est-à-dire la totalité de la révélation divine. Qu'il en soit de même de vous et de moi.